Nous sommes encore dans la présence du Seigneur ce soir. Et il a certainement préparé quelque chose. Et il veut toucher nos cœurs. Il veut toujours nous attirer à lui par ses cordages d'amour. Alléluia. Oui, si nous savions combien il nous aime, sans tarder, on viendrait à lui. On lui ouvrirait tout notre cœur et il y répandrait ses riches bénédictions. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais que nous méditions ensemble quelques pensées qui, j'espère, nous feront du bien. Et j'aimerais qu'on voit 8 attitudes agréables devant Dieu. Devant Dieu. Bien souvent, dans les Écritures, il y a cette expression « devant Dieu ». Et à 8 reprises, il y en a certainement d'autres, mais à 8 reprises, il est parlé d'avoir une certaine attitude devant Dieu. Et j'aimerais vous en donner 8 ce soir. 8 attitudes agréables devant Dieu. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Amen. Notre vie chrétienne doit se passer devant Dieu, devant le Seigneur. Trop de vie chrétienne ne se passe que devant les hommes et ne porte pas de fruits. Si nous voulons porter des fruits, nous devons réaliser que notre vie chrétienne doit se passer devant Dieu. Si nous sommes conscients de cela, que nous vivons devant Dieu, notre vie chrétienne peut être complètement révolutionnée. Amen. Et il y a plusieurs vérités importantes que nous allons voir ce soir. 8 attitudes agréables devant Dieu. C'est important de le savoir, vous êtes d'accord avec moi? Ce qui est agréable devant Dieu. Et vous savez, quand on fait ce qui est agréable devant Dieu, aux yeux de Dieu, la bénédiction, vous n'avez même pas besoin de la demander, elle descend toute seule. Amen. Vous n'avez même pas besoin de demander à Dieu de vous bénir. La bénédiction vous suit parce que vous marchez devant Dieu. Vous avez une attitude agréable devant Dieu. Et je crois que de plus en plus, nous devons être conscients que nous devons vivre notre vie chrétienne devant Dieu. Pas seulement devant les hommes, pas seulement devant tel serviteur de Dieu, parce qu'il y en a qui sont bien gentils devant tel serviteur de Dieu, mais loin de l'Église ou du serviteur de Dieu, ils font n'importe quoi. Ils n'ont aucune conscience que leur vie chrétienne doit être vécue devant Dieu. Que ce soit à l'église, que ce soit en dehors de l'église, que ce soit à la maison, au travail, dans la rue, partout où nous sommes, notre vie chrétienne doit être vécue devant Dieu. Amen. Pas seulement à l'église. Il y a des chrétiens qui réalisent qu'ils sont devant Dieu qu'à l'église. Quelle erreur! Nous devons avoir la même attitude, aussi bien à l'église qu'en dehors de l'église, partout où nous sommes. C'est pour cela que il y a 8 attitudes agréables devant Dieu qui sont comme un parfum de bonne odeur qui s'élève de nos cœurs et qui sont agréables à Dieu. Alléluia. La Bible, l'apôtre Paul lui-même le dit que notre vie sont comme doivent être comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Qui monte vers le Seigneur et qui réjouit son cœur. Alors voyons ces 8 attitudes agréables devant Dieu. La première attitude, nous la trouvons dans Luc, au chapitre 1, au verset 6. Nous lisons ceci, au verset 5. « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. » Tous deux étaient justes devant Dieu. Regardez l'expression. Tous deux étaient justes devant Dieu. Et nous allons voir pourquoi ils étaient justes devant Dieu. Chaque fois qu'il y aura cette expression « juste devant Dieu », si nous lisons le contexte, nous allons voir pourquoi ils étaient justes devant Dieu. Pourquoi cette attitude devant Dieu plaisait au Seigneur? Cette simple expression « juste devant Dieu », nous voyons par là une attitude qui vraiment réjouit le cœur de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi ils ont enfanté Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui a préparé la voie du Seigneur. Avoir une vie qui est juste devant Dieu, c'est vraiment vivre sous la bénédiction et l'approbation du Seigneur. Alors on voit ici, tous deux étaient justes devant Dieu. La phrase n'est pas finie. Il est dit après, pourquoi en somme, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Voilà en somme pourquoi Dieu les considérait comme justes devant lui. Parce qu'il servait le Seigneur d'une manière irréprochable et mettait en somme en pratique tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alors on peut résumer cela en disant, en s'exprimant différemment, ils étaient justes devant Dieu, ils étaient agréables devant Dieu parce qu'il y avait en eux l'amour de la vérité, l'amour de la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y avait en eux cet amour de la parole. Nous le voyons ici. Donc, ils étaient irréprochables concernant les commandements et les ordonnances du Seigneur. Nous voyons donc là un couple qui aimait la vérité, qui aimait la parole de Dieu. Et c'est là quelque chose qui plaît énormément à Dieu. C'est quelque chose qui est agréable devant Dieu, avoir cet amour de la vérité, de la parole de Dieu, l'amour de la vérité. Avons-nous cet amour de la vérité? Il faut avoir la passion de la vérité. C'est comme cela que nos vies seront agréables devant Dieu. Et vous savez, si nous n'avons pas l'amour de la vérité, je lis un autre passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Vous savez, quand on n'a pas l'amour de la vérité, il y a beaucoup de dangers pour notre vie spirituelle. 1 Thessaloniciens 2, 10 nous dit ceci. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et verset 10. Ah, pardon, c'est pas là. C'est 2 Thessaloniciens. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est 2 Thessaloniciens 2, 10. Regardez ce qu'il est dit. Un passage important, au verset 9 déjà. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu, écoutez bien maintenant, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voyez-vous? Il y a là une vérité importante, que si nous n'avons pas l'amour de la vérité, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes sortes d'esprits de mensonges et de séductions qui rôdent dans ce monde, n'est-ce pas vrai? Et si nous n'avons pas cet amour de la vérité, nous risquons d'être emportés par tout cela. La vérité, il faut l'aimer, il faut avoir la passion de la vérité. Quand vous entendez quelque chose, quand j'entends quelque chose, on entend tant de choses dans ce monde aujourd'hui. Les uns disent « Dieu m'a dit ceci », les autres disent « Dieu m'a dit cela ». Il faut toujours dire « Hé là mon ami, tu parles très bien, Dieu t'a dit ceci, Dieu t'a dit cela ». Est-ce que c'est écrit? Montre-moi dans la parole si c'est écrit. Montre-moi. Ah oui, mais Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Montre-moi. Tout ce que Dieu te dit doit être en accord avec la Bible. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, je n'accepte pas ce que tu me dis. Amen. L'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas eu cet amour-là, alors ils se sont égarés dans toutes sortes de fausses doctrines. Si nous voulons être gardés, tout spécialement dans ces temps de la fin, mes frères et sœurs, il nous faut avoir cet amour de la vérité. Amen. Cette passion de la vérité. Et nous devons être des hommes et des femmes de la Bible. Alléluia. Nous devons nous accrocher à cette parole. Elle est, cette parole, le fondement même de notre foi. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Avons-nous, as-tu cette passion de la vérité? As-tu cet amour de la vérité? Si nous ne l'avons pas, mes amis, et que nous acceptons n'importe quoi, quelqu'un qui vient, qui parle un peu fort, et qui dit « Oh, nom de Dieu !» et des choses comme ça, si vous êtes impressionné, bah, vous allez vous rendre compte, il a dit « C'était au nom du Seigneur !» Et puis, quand il parlait, c'était bien, bien dit. Tout cela peut nous tromper, vous êtes d'accord avec moi? Mais nous devons toujours dire, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Amen. Ils étaient justes devant Dieu à cause, parce qu'ils mettaient en pratique toutes les ordonnances. Voyez-vous, c'était un couple qui était vraiment attaché à la parole, qui avait l'amour de la parole de Dieu. Plus que jamais, mes amis, nous devons avoir cet amour-là. Sinon, nous serons facilement entraînés dans le mensonge. Il est parlé de miracles, même mensongers, qui nous éloignent de la vérité. Combien nous devons veiller, n'est-ce pas vrai? Et il n'y a que celui qui a l'amour de la vérité, qui peut contrôler tout cela. Sinon, nous sommes égarés. Et dans ces temps de la fin, il y a comme un esprit de confusion, de séduction et de compromis qui se manifeste. Nous devons, si nous voulons être agréables devant Dieu, avoir l'amour de la parole, l'amour de la vérité. Amen. Et de plus en plus, nous devons avoir cela. C'est capital, capital. Nous ne devons pas accepter n'importe quoi, tout ce qu'on nous dit comme cela, comme étant la vérité. Non, comme les chrétiens de Bérée. Nous devons vérifier tout ce que nous entendons. Et les chrétiens de Béry, ils vérifient même ce que l'apôtre Paul disait. On pourrait dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il ne croit pas aux paroles de l'apôtre? C'était pourtant Paul? Mais oui, et Dieu ne leur a fait jamais le reproche de ce qu'ils ont contrôlé même les paroles de Paul. Nous devons contrôler les paroles même de ceux qui se disent apôtres. Et ne pas dire, oh, c'est rien du tout, c'est un apôtre, il ne se trompe jamais. Non, c'est comme cela qu'on se trompe. C'est comme cela qu'on s'éloigne. Parce qu'on met sa foi sur les hommes. Oh, celui-là, il est formidable. Non ! Les chrétiens de Bérée ont contrôlé tout ce que Paul disait. Nous devons contrôler aussi tout ce que nous entendons. Même le plus grand prédicateur doit être contrôlé. Amen ? Moi, je n'ai pas peur d'être contrôlé. Quand quelqu'un prêche la Bible, il n'a pas peur d'être contrôlé. Vous êtes d'accord avec moi ? Il n'y a que celui qui ne prêche pas la vérité. Il n'y a que celui qui n'a pas l'amour de la vérité qui a peur d'être contrôlé. Quand on aime la vérité et qu'on ne veut prêcher rien d'autre que la vérité, on n'a pas peur d'être contrôlé. Amen. Au contraire, on dit, mais bien, mais vas-y, contrôle, sûr. Je peux me tromper, je ne suis pas parfait. Et si je me suis trompé, ben je suis le premier à accepter. Alléluia. On n'est pas offensé, pas du tout. Mais là où il n'y a pas l'amour de la vérité, on est offensé, on est fâché même. Du comment? Tu mets en doute mes paroles? Ah oui, mon ami. J'ai l'amour de la vérité. J'ai la passion de la vérité. Et je veux savoir si c'est vrai ce que tu dis, selon la parole. C'est cela qui nous gardera. Amen. Et par rapport à n'importe qui. Et c'est cela qui est agréable devant Dieu. Alléluia. Devant Dieu, c'est agréable. Ils étaient justes devant Dieu à cause de cela. Quel beau témoignage. Amen. Voyons un deuxième point maintenant. Nous allons trouver cela dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7 et au verset 46. Une deuxième expression où il est parlé de « devant Dieu », Actes 7, 46. Il est dit ici, et verset 45, juste un peu avant, verset 44, « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu. Encore une fois, devant Dieu. Soulignez bien cela. Pourquoi ? On va lire un peu plus loin. Pourquoi il trouva grâce devant Dieu, David ? Pourquoi ? Nous avons vu Zacharie et Élisabeth, parce qu'ils avaient l'amour de la vérité. Et maintenant, David, pourquoi il trouva grâce devant Dieu ? Un peu plus loin, il est dit, David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever. Voyez-vous, c'est la même phrase. Elle n'est pas finie. Il trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et la phrase n'est toujours pas finie. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Et regardez maintenant, pourquoi ici David a trouvé grâce devant Dieu ? Parce qu'il voulait bâtir une maison pour l'Éternel. Et la Bible dit, parce que David était un homme de sang, alors il ne pouvait pas bâtir la maison de l'Éternel. C'est Salomon qui était un homme de paix, qui était capable et qui devait lui bâtir la maison. Mais pourquoi trouva-t-il grâce ? Tout à l'heure, c'était à cause de l'amour de la vérité. Et maintenant, David trouva grâce devant Dieu parce qu'il mit les intérêts de Dieu avant ses propres intérêts. Il a pensé, il était là dans une belle maison, un beau palais, et il s'est dit, c'est pas possible. Je suis moi dans un palais merveilleux. Et la maison de l'Éternel, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de maison de l'Éternel. Alors il s'est dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça. Il a dit, il faut avant tout que la maison de Dieu soit établie. Je veux rechercher les intérêts de Dieu avant mes propres intérêts. Et voilà pourquoi David trouva grâce devant Dieu. Lorsqu'on place les intérêts de Dieu avant nos propres intérêts, nous trouvons grâce devant Dieu. Amen. Alléluia. Et voilà comment nous pouvons trouver grâce. Quand nous disons, Seigneur, je mets tes intérêts, ta volonté, avant mes intérêts et ma volonté. Que de chrétiens ne vivent que pour eux-mêmes, n'est-ce pas vrai ? Que de chrétiens ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leurs intérêts, qu'à leur bien-être. Mais l'œuvre de Dieu, ils ne s'en occupent pas. Peu importe les autres. Je suis sauvé, eh ben c'est tout, c'est terminé. On ne s'occupe pas des autres. Mais David était juste, a trouvé grâce devant Dieu. Parce qu'il y avait une attitude qui était agréable devant Dieu. Il ne pouvait pas vivre dans la bénédiction comme ça, en voyant l'œuvre de Dieu, les intérêts de Dieu négligés. Si tu veux trouver grâce devant Dieu, alors tu dois dire, et je dois dire à un moment donné, maintenant, je ne veux plus vivre pour moi-même. Dieu m'a béni. Est-ce que je vais rester encore continuellement comme ça ? Seigneur, tu m'as béni. Que de fois, nous demandons continuellement à Dieu de nous bénir, mais il nous a déjà tant bénis, qu'il nous demande maintenant d'être en bénédiction à son œuvre. Amen. Es-tu en bénédiction à son œuvre ? Il y a des chrétiens qui ne vivent que pour demander, oh, bénis-moi, 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 guéris-moi, bénis-moi, bénis-moi. Toujours, ils sont toujours là. C'est des bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. On devrait les appeler bénis-moi. Les chrétiens, bénis-moi. Bénis-moi. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, bénis-moi, Seigneur. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, il n'y a que ça. Les chrétiens, bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi. Mais David trouva grâce devant Dieu. Écoutez bien, c'est très important. Parce qu'à un moment donné, il s'est dit, c'est pas possible, Dieu m'a béni. Dieu m'a gardé dans toutes ces batailles. La main de Dieu a été sur moi. Je ne peux pas rester comme ça. L'œuvre de Dieu, les intérêts de Dieu sont négligés. Je ne peux pas rester comme ça. Et il avait à cœur de bâtir un temple pour l'Éternel. Dieu a vu cela. Il a envoyé Nathan, il lui a dit, je sais bien ce que le désir que tu as est merveilleux, mais ce n'est pas toi qui vas bâtir, parce que tu es un homme de sang. Tu as fait la guerre. Et ce n'est pas quand on fait la guerre qu'on peut bâtir le temple. Il faut bâtir dans la paix. Amen. Dans la paix. C'est dans la paix que ça se construit, et Salomon, lui, le fera. Mais tu as eu le désir, et cela est considéré à mes yeux comme une grâce. Devant moi, tu as trouvé grâce. Alléluia! Parce que tu n'as pas recherché tes propres intérêts. Tu ne les as pas mis en premier, mais tu as mis les intérêts de Dieu avant. Mon frère, ma sœur, Veux-tu, voulons-nous trouver grâce devant Dieu? Alors, mets les intérêts de Dieu avant tes propres intérêts. Oublie-toi. Oublie-toi. Cesse de penser à toi-même. Toujours bénis-moi et ceci, cela. Il y a des chrétiens, on doit toujours tourner autour d'eux. Quand vous les voyez, priez pour moi, priez pour ma famille, priez pour moi. Il n'y a que ça. Mais eux, vous ne les voyez jamais prier pour les autres. Jamais. Ils ne prennent pas à cœur l'œuvre de Dieu. Aucun, indifférent. Il n'y a pas cette sensibilité, ce fardeau, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils sont là uniquement, tournant autour d'eux-mêmes. Voilà pourquoi tu n'es pas satisfait. Dieu t'a béni, c'est pour te rendre en bénédiction. Quand Paul était en prison, il écrivait, dans Philippiens, il dit ceci, il disait à Timothée, viens me voir, parce qu'ici tout le monde cherche son intérêt. Il y en a très peu qui cherchent les intérêts du Seigneur, très peu. Et s'il était comme un peu découragé, Paul en prison, il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde cherche son intérêt, il dit, dans Philippiens 2, 20, je vais lire ce passage. Tout le monde cherche son intérêt. Il est dit ici, au verset 19, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. » Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Mes amis, quelle leçon pour nous. David a trouvé grâce devant Dieu parce qu'à un moment donné, il a dit, c'est pas possible. L'œuvre de Dieu souffre. Je vais cesser de penser à moi-même. Je veux penser à participer à l'œuvre de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous pouvons faire quelque chose. Amen. Par la prière, par nos actions, par quelque chose. Nous pouvons tous être concernés. Et tu trouveras grâce devant Dieu. Et tu verras sa bénédiction descendre sur toi. Même sans prier, sa bénédiction sera puissamment sur toi. Amen. Il trouva grâce devant Dieu. Parce qu'il s'est oublié lui-même. Il a renoncé à ses propres intérêts. Et il pensait aux intérêts de l'œuvre de Dieu. As-tu à cœur l'œuvre de Dieu? As-tu à cœur cela? Est-ce que tu cherches premièrement le royaume de Dieu? Alors, si tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes les choses matérielles te seront données par-dessus. Amen. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Tu trouveras grâce devant Dieu. Amen. Quelle belle attitude. Amen. Paul, dans sa prison, était attristé de ce que très peu avaient cela. Très peu de chrétiens avaient cette attitude. Mais que nous puissions ce soir réaliser cela et dire, Seigneur, je veux plus prendre à cœur. Tu m'as tant béni. Je veux maintenant être une bénédiction aux autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Et chacun d'entre nous, nous pouvons faire quelque chose pour le Seigneur. Chacun concerné, engagé, à cœur l'œuvre de Dieu. Alléluia. Une troisième attitude maintenant, qui est agréable devant Dieu, c'est dans les Actes, au chapitre 10 cette fois, au verset 33, nous allons voir une autre attitude qui est agréable devant Dieu. Acte 10, verset 4, pardon. Acte 10, verset 4, au verset 3 déjà, il est dit, vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision, il est question de Corneille le centenier, là, n'est-ce pas? Il a une vision d'un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Quelle parole! Quand il y a cette expression « devant Dieu », alors il se passe quelque chose. Alors Dieu est satisfait. L'approbation de Dieu est là. Le cœur de Dieu est touché. Si le cœur de Dieu est touché, mon ami, alors c'est le début de la bénédiction. Des choses extraordinaires peuvent se passer. Et qu'est-ce qu'il est dit? Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et tout cela. Donc, voilà, ils vont chercher Pierre pour que Pierre vienne leur parler du Seigneur afin qu'ils se convertissent, lui et toute sa famille, n'est-ce pas vrai? Mais là, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Devant Dieu. Quelle est l'attitude ici qui est agréable devant Dieu? Ce sont ces prières sincères et persévérantes devant Dieu. La prière de Corneille, on ne sait pas très bien ce qu'il priait, mais certainement qu'il voulait connaître la vérité. C'était un païen. C'était un païen. Il ne connaissait pas Dieu. Et certainement qu'il disait, Seigneur, oh, montre-moi le chemin de la vérité. Et il faisait des aumônes, voyez-vous, pensant qu'avec cela, il agissait selon les lumières qu'il avait. Pourquoi il était agréable devant Dieu? Parce qu'il était sincère et persévérant. Tes prières sont montées, ça veut dire qu'il persévérait dans la prière, dans une prière sincère. Et Dieu entend ces prières-là. Amen. Voilà ce qui est agréable devant Dieu, mes frères, mes sœurs. La prière sincère et persévérante devant Dieu est agréable devant Dieu. Amen. Et tôt ou tard, Dieu l'exauce. C'est un encouragement à prier, n'est-ce pas? C'est un encouragement à persévérer dans la prière. Mais c'est un engagement à persévérer dans la droiture devant Dieu. Parce que lorsque Dieu a exaucé sa prière, il lui a dit maintenant, va. Fait venir ce nommé Pierre. Et la preuve, c'est que quand Pierre est venu, le miracle s'est passé. Nous voyons vraiment que cet homme était droit, sincère. Et quand la parole a été annoncée, cette parole est tombée dans un terrain bien préparé. Cette parole a tout de suite germé et porté du fruit. Alléluia! Parce que c'était un homme droit, sincère. Si nous voulons avoir cette attitude agréable devant Dieu, il faut que nos prières soient sincères et persévérantes. Amen. Pas de duplicité, pas d'hypocrisie. Parce que combien de fois Dieu exauce nos prières. Mais lorsque l'exaucement arrive, nous oublions Dieu. Nous faisons des promesses à Dieu. Oh Dieu, si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu me guéris, si tu me donnes ceci, cela, je te servirai. L'exaucement arrive et il n'y a plus personne. On oublie nos promesses. On oublie nos promesses. Et voilà une attitude qui est désagréable devant Dieu, n'est-ce pas vrai? Mais Corneille, et pourtant c'était un païen, mais dont le cœur était droit. Et quand Dieu s'est révélé à lui, il s'est donné entièrement au Sauveur. Amen. Alléluia. Voilà une attitude qui est agréable à Dieu. Lorsque Dieu t'exauce, lorsque Dieu intervient, est-ce que tu te consacres à Dieu? Est-ce que tu lui donnes toute ta vie? Ou est-ce que tu fais constamment un marchandage avec Dieu? Trop de chrétiens font des marchandages avec Dieu. Et lorsque Dieu les bénit, eh bien, ils oublient tout ce qu'ils ont dit au Seigneur. Et ils passent par des épreuves grandes. Mais si tu veux une attitude qui est agréable devant Dieu, il faut que tu sois sincère. Quand Dieu t'exauce, alors donne-toi entièrement à lui. Amen. Là, nous voyons Corneille, sa connaissance de Dieu était limitée, mais Dieu l'a conduit plus loin. Dieu veut te conduire plus loin si tu es droit. Ne dis pas, oh Dieu m'a béni, ça y est, je suis, voilà, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, voilà. Tout exaucement de prière doit nous conduire dans une obéissance plus grande à sa parole. Amen. Corneille n'est pas resté au même point. Quand il a vu la main de Dieu, quand il a vu Dieu agir dans sa vie, il n'est pas resté le même. Il a dit, me voici. Et il est allé plus loin. Oh, mes amis, lorsque Dieu nous exauce, lorsque Dieu nous bénit, il attend un engagement de plus de notre part, une obéissance de plus. Et c'est cela qui est agréable devant Dieu. C'est une expression extraordinaire. Tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu. Dieu entend la moindre prière qui se fait sincèrement. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Mais lorsque Dieu a entendu ta prière, alors tu dois finir par lui dire, « Me voici, je veux maintenant me donner tout entière à toi et faire ta volonté dans ma vie. » Voilà ce qui est agréable devant Dieu. Amen. Pas seulement dire, « Merci Seigneur, tu m'as béni, alléluia, t'as exaucé ma prière », sans que ça occasionne en nous un amour plus grand pour le Seigneur, une consécration plus grande. Sinon, nous tournons en rond. À quoi servent les bénédictions, les exaucements de prière, si nous restons les mêmes? Au contraire, nous nous endurcissons. Et comme les Israéliens dans le désert, les Israélites dans le désert, la manne, à un moment donné, Dieu les avait bénis de la manne. Et après, à un moment donné, ils ont dit, ah, cette manne, toujours cette manne, on en a assez de cette manne. La bénédiction que Dieu leur envoyait n'était plus appréciée. La bénédiction ne provoquait plus en eux la reconnaissance et l'amour pour Dieu. Nous devons veiller, mes amis. Amen. Chaque fois que Dieu exauce notre prière, nous devrions nous reconsacrer davantage à lui et réaliser combien il nous aime. Amen. Cela est agréable devant Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu nous exauce encore plus quand il sait que ses exaucements produisent en nous un amour plus grand et une consécration plus grande pour lui. Amen. Dieu ne cessera de te bénir. Mais lorsque ta prière n'est pas droite, alors ne t'étonne pas que ça ne marche pas. Allons un peu plus loin maintenant. Quatrième point, quatrième attitude devant Dieu. Acte 10, 33, c'est toujours avec l'histoire de Corneille. Acte 10, 33 cette fois. Alors voici ce que Corneille dit. « Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Pourquoi ? Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Regardez l'expression encore. « Nous sommes tous devant Dieu. » Non pas devant toi. Nous sommes pas, il ne dit pas nous sommes tous devant toi maintenant. Mais nous sommes tous devant Dieu. Pour entendre, entendre quoi? Tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Une attitude qui était agréable devant Dieu. Quelle est donc cette attitude? C'est d'écouter la parole de Dieu comme étant dans la présence même de Dieu. Amen. Voilà une autre attitude qui est agréable, mes amis. Et là, nous devons bien faire attention parce qu'avec la routine, nous risquons de tomber dans une tradition. Oh, voilà, encore une autre réunion, encore un autre message, et voilà. Et on a l'impression d'être devant le prédicateur et non pas devant Dieu. On se rassemble devant le prédicateur. Alors, prédicateur, qu'est-ce que tu as à nous dire? On est devant le prédicateur et quand il parle mal, ben, on le critique. Qu'est-ce que c'est que ce prédicateur? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ainsi, la parole de Dieu n'a pas d'effet. Parce que nous n'avons pas la bonne attitude qui est agréable devant Dieu. Corneille, un païen, vous rendez compte? Un païen qui fait la leçon aux chrétiens. Nous sommes tous devant Dieu. Quelle droiture! Amen! Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Voilà, mes amis, l'attitude que nous devons tous avoir. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, Seigneur, nous sommes devant toi, je suis devant toi pour écouter ce que tu as à me dire. Amen. Quel que soit le prédicateur, si vous êtes dans cette attitude-là, mes amis, Dieu vous donnera toujours une parole. Amen. Même au travers du plus faible serviteur, du plus faible prédicateur, Dieu vous parlera. Parce que c'est sa parole. Amen. Bien sûr, s'il ne prêche pas la parole, il n'y a rien de valable. Mais s'il prêche la parole, et que vous avez la bonne attitude, Seigneur, nous voici devant toi pour entendre ce que tu as à me dire. Mes amis, vos regards ne sont plus sur l'homme. Et cette attitude-là est merveilleuse, non seulement pour vous-même, mais même pour le prédicateur. Parce que vous savez, le prédicateur, quand il sait que les gens ont le regard sur lui, en disant, celui-là, qu'est-ce qu'il va encore nous dire ce soir? Il se prend pour un prédicateur, celui-là, il sait rien du tout, rien, qu'est-ce que nous... Alors vous voyez, alors une telle attitude, ça bloque le prédicateur, vous êtes d'accord avec moi? Le prédicateur lui-même. Parce qu'il sait qu'ils sont là, devant lui, mais pas devant Dieu. Les gens n'ont pas la bonne attitude, qui est agréable devant Dieu. Qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Ce prédicateur, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ça bloque tout. Mais lorsque nous avons la bonne attitude, nous sommes devant toi, Seigneur, pour entendre ce que tu as à nous dire, ça libère le prédicateur. Parce qu'il voit que les yeux ne sont pas sur lui, mais qu'au contraire, tous sont là, attachés au Seigneur, attendant du Seigneur quelque chose.
Amen. Alléluia.
Et si nous attendons du Seigneur quelque chose, nous recevons toujours quelque chose de lui. Amen. Toujours. Toujours. Bien souvent, lorsque nous ne recevons rien, c'est parce que nous avons regardé l'homme. Lorsque c'est que nous nous sommes rassemblés devant l'homme, devant le prédicateur et non pas devant Dieu. Dites-moi, n'est-ce pas une belle attitude, l'attitude de Corneille? Nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur veut te dire, veut nous dire par toi. Quelle belle attitude! Quelle belle attitude! Et voilà ce qui est agréable devant Dieu. Et voilà comment la parole peut pénétrer en nous. Et nous pouvons recevoir toujours une parole du Seigneur. Parce que nous sommes devant le Seigneur, entendant sa parole. Et n'ayant pas les regards sur l'homme, mais sur Dieu seul.
Amen.
Saint, on en est où déjà, quatrième? Alors on en est où? Cinquièmement, hein? Cinquième attitude maintenant. Nous l'avons dans Galates, chapitre 1. Galates, chapitre 1, et verset 20. Vous allez voir une autre attitude de Paul, maintenant. Galates, chapitre 1, et verset 20. Au verset 18 déjà, 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance du Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous dis, j'écris, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Quelle belle attitude. Paul, quand il parlait, quand il rendait témoignage, il avait une attitude qui était agréable devant Dieu, parce que c'était un témoin fidèle de tout ce que Dieu avait fait dans sa vie. Amen. Un témoin fidèle et courageux. Parce qu'à Galates, là-bas, il y avait des prédicateurs qui venaient et qui commençaient à annoncer un autre évangile. Et l'épître aux Galates était là un peu pour corriger toutes ces fausses révélations, toutes ces choses qui sont là. Et Paul, il parle un peu de ses débuts ou de sa conversion. Et il est tellement touché par la révélation qu'il a eue de Jésus sur le chemin de Damas. Il dit, mais je ne peux pas vous mentir, ce que je vous dis, c'est la vérité. Notre témoignage, mes amis, doit être un témoignage authentique de ce que nous avons vécu. Amen. Et si nous disons les choses que nous avons vécues, il y aura quelque chose qui est agréable devant Dieu. Il vaut mieux dire peu de choses, mais dire les choses que nous vivons et que nous avons expérimentées, que de dire beaucoup de choses que nous n'avons pas expérimentées. Amen. Et voilà pourquoi Paul était agréable devant Dieu. Parce que ce qu'il disait était ce qu'il avait profondément vécu. Et il avait le courage de le dire. Malgré les persécutions, il savait qu'il ne serait pas toujours accepté. Mais il avait le courage de le dire. Et c'était cela qui était agréable devant Dieu. Un témoin fidèle et courageux. Voilà ce que Dieu nous demande. Le courage. Et la fidélité, et vivre ce que nous disons. Amen. Vivre, voilà ce qui est agréable. Mes amis, une parole vécue par nous, un témoignage vécu, aura plus de fruits que la plus belle des prédications qui sort de la tête et qui n'est pas vécue. Amen. Un gramme d'exemple vaut mieux qu'une tonne de conseils. Ce qui vient du cœur, ce qui vous a touché, c'est ce qui touchera les autres. Mais ce qui ne vous a pas touché, ce qui n'a pas bouleversé votre vie, ne bouleversera pas les autres non plus. Voilà ce qui est agréable devant Dieu pour Paul. Voici, dans ce que je vous écris, je ne mens pas. Devant Dieu. Voyez-vous, c'était sérieux. Devant Dieu. Il parlait comme étant devant Dieu. Dieu l'entendait. Dans tout ce qu'il disait. Dieu était là. Son premier auditeur était Dieu. Tout homme, tout prédicateur, tout chrétien, quand il fait quelque chose, il doit réaliser que le premier auditeur, c'est Dieu. Jésus est là. Dans l'auditoire, il écoute. Si on était conscient de cela, ça changerait beaucoup de choses. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a les uns, il y a les autres, il y a la famille, il y a la parenté, il y a le ceci, cela, mais il y a quelqu'un d'autre. Le maître est là. Et quand nous parlons dans la présence du maître, nous ne parlons plus la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Quand le maître est là, lui qui sait tout, déjà on ne raconte pas des histoires. Amen? On ne raconte déjà pas des histoires, parce qu'il est là. Il est là, je peux pas raconter n'importe quoi. Quand il n'est pas là, on peut dire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Mais quand il est là, il sait tout. Et quand on raconte n'importe quoi et qu'on regarde son visage, et il fait... Hypocrite, tais-toi. Devant Dieu, je ne mens pas. Quel témoignage! Il vivait ce qu'il disait. Est-ce qu'il disait? Il le disait dans la présence même du Seigneur. Comme si le Seigneur était là. Et chaque fois qu'on est vrai avec le Seigneur, il fait. Ça, ça vous encourage. Amen. Oui, mon enfant, c'est bien. Même si tu bafouilles, tu sais pas, si ça vient du cœur, si tu dis ce que Dieu a fait dans ta vie, le Seigneur dira. Un jour, j'avais entendu le témoignage d'un pasteur. Et à un moment donné, dans sa prédication, il s'est complètement perdu. Il s'est même arrêté. Et puis à un moment donné, là, il a bafouillé. Je ne sais plus où il en était. À ses yeux, c'était la catastrophe. Et après la réunion, quelqu'un est venu le voir. Et il lui a dit ceci, frère. J'ai été touché. Vous savez à quel moment dans votre prédication? C'est au moment où vous avez bafouillé là. C'est là que Dieu m'a parlé. C'est là, à ce moment-là, que Dieu m'a parlé. Voyez-vous, au moment où il était le plus faible, que la puissance de Dieu s'est manifestée. Mais cette faiblesse était dans la droiture et la sincérité. Amen. Et là, Dieu dit, oui, mon enfant, n'aie pas peur, oui. Oui, sois dans la vérité, et moi, j'attesterai ce que tu dis. Alléluia! Quel courage pour tout le monde, vous êtes d'accord avec moi? Quel espoir pour tout le monde! Parle, témoigne, comme si le maître était ton premier auditeur. Et tu ne parleras plus la même chose, et tu ne témoigneras plus la même chose. Amen? Allons un peu plus loin, sixièmement, une sixième chose agréable, 1 Timothée 5, 4. Une autre chose agréable devant Dieu. Il est dit, honore les veuves au verset 3, qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leurs parents. Ce qu'ils ont reçu d'eux, je répète, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu ou devant Dieu. Une autre chose agréable devant Dieu, c'est de rendre à ses parents ce qu'on a reçu d'eux. Autrement dit, de s'occuper de ses parents. Amen. Justement, quand ils ont besoin de nous, nous occuper d'eux. Ils se sont occupés de nous pendant des années. Maintenant qu'ils sont faibles, qu'ils n'ont plus de soutien, c'est vous qui êtes leur soutien. Toi, de la famille, l'enfant, le fils, c'est toi qui dois maintenant aider. Les tiens, tes parents, car cela est agréable devant Dieu. Amen. Nous vivons un siècle où on délaisse les parents, on se moque des parents, n'est-ce pas vrai? Et voilà pourquoi c'est une chose très désagréable devant Dieu. Nous devons faire notre maximum pour aider nos parents, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Et cela est agréable devant Dieu. La parole de Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». C'est là le premier commandement. C'est alors que tu seras heureux et que tu vivras longtemps sur la terre. Quelle parole! Quelle promesse! Honore ton père et ta mère! Et honore, ça ne veut pas dire « Papa, je te respecte », c'est plus que ça. Dans le mot « honorer », il y a aussi « aider », « soutenir », « subvenir à leurs besoins », « prendre soin d'eux ». Cela est agréable devant Dieu. Amen. Et les chrétiens ont besoin plus que jamais d'avoir cette attitude, n'est-ce pas? Car dans le monde, ces choses s'oublient. La parole de Dieu dit que les parents haïront les enfants et les enfants haïront leurs parents. Voilà ce qui se passe dans le monde. Et cela est très désagréable devant Dieu. Mais dans l'Église, pour le chrétien, c'est tout à fait autre chose. Amen. Puissions-nous toujours avoir cette bonne attitude d'aider, de subvenir aux besoins de nos parents. Cela est agréable devant Dieu. Veux-tu être agréable devant Dieu? Alors fais cela. C'est ta première responsabilité. Et tu verras la main de Dieu sur toi. Amen. Gloire au Seigneur. Bien sûr, dans la mesure de tes possibilités, de tes moyens, mais tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas négliger ce qui est en ton pouvoir. Tu dois le faire. Allons un peu plus loin. Septièmement, une septième attitude. 1 Timothée 5, 21, cette fois. C'est un peu plus loin. Un peu plus loin. Je te conjure, regardez ici, verset 20 déjà, « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent aussi de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » Rien faire par faveur. Alors, la septième attitude ici, agréable devant Dieu, c'est quoi? C'est de ne pas avoir de préférence dans notre témoignage chrétien. De ne rien faire par faveur, d'aimer sans hypocrisie, sans faire de parti, que ce soit un amour sans hypocrisie, sans préférence. Ça, c'est terrible, les préférences. Vous êtes d'accord avec moi? Quand des parents aiment plus un enfant qu'un autre, quelle tragédie pour cet enfant qui ne se sent pas aimé. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est tragique. Et malheureusement, combien de parents disent « Moi, j'aime mieux ton frère que toi. » Il n'y a rien de plus mortel. C'est une parole que des parents ne devraient jamais dire. « J'aime plus ta sœur que toi parce que ta sœur est plus belle. » Mais toi, tu n'es pas grand-chose. « J'aime mieux ton frère parce qu'il est plus intelligent. » Mais toi, rien du tout. Ça rentre ici, ça sort par là, tu n'as rien du tout. J'aime mieux ton autre frère parce que lui, il est dégourdi. Toi, tu n'as rien du tout, tu ne fais jamais rien. Tu t'en sortiras jamais. Quelle tragédie! Et cela est très désagréable devant Dieu. Ne fais rien par faveur. Ici, il était question des serviteurs de Dieu. Mais nous pouvons généraliser ça en tout, n'est-ce pas? Devant Dieu, aucune faveur. Et ça commence dans la famille. Tu dois aimer tes enfants tous de la même façon. Amen. Tous de la même façon. Il n'est peut-être pas beau, mais il a d'autres qualités. Amen. Il n'est peut-être pas intelligent, mais il a peut-être d'autres qualités que l'autre n'a pas. Dieu a donné des talents à l'un et à l'autre. Tous sont valables aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Et tu peux faire un mal terrible devant Dieu. Et dans le cœur de ton enfant, je t'en conjure, dit Paul à Timothée, devant Dieu, de ne rien faire par faveur. Qu'il n'y ait pas de favoritisme, mais qu'il y ait un amour sincère et égal pour l'un comme pour l'autre. Amen. Parce que Dieu nous aime tous de la même façon. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu aime plus l'un que l'autre? Plus l'un que l'autre? Dites-moi un petit peu. Si vous y croyez, ça, c'est pas le Dieu de la Bible. C'est votre Dieu à vous, que vous avez fabriqué vous-même. C'est votre invention, c'est pas le Dieu de la parole. C'est le Dieu de votre imagination. Dieu nous aime tous de la même façon. Et nous devons aussi aimer de la même façon, sans favoritisme. Et je termine maintenant, huitièmement, 2 Timothée 4:1. Une huitième attitude qui est agréable devant Dieu. 2 Timothée 4, verset 1, il est dit, « Je t'en conjure encore une fois devant Dieu et devant Jésus-Christ. » Voyez-vous, devant Dieu et devant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va lire le contexte maintenant et je vais terminer. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son royaume. » Et de son apparition, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car, voilà pourquoi il faut conjurer, il faut parler avec autorité devant Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se tourneront vers une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Il y a deux devant ici. Devant Dieu le Père et devant Jésus-Christ son Fils. Quelle est l'attitude qui sera agréable devant Dieu? C'est de prêcher la saine doctrine sans chercher à plaire aux hommes. Amen. Car il y aura des gens qui auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ne veulent entendre que ce qui leur plaît. Et malheureusement, il y a des prédicateurs qui se plaisent à ce jeu-là et qui ne prêchent que des choses qui font plaisir. Et voilà pourquoi ils sont désagréables devant Dieu. Dieu ne peut accepter cela. Mais le vrai prédicateur, le vrai témoin, qui est agréable devant Dieu, c'est celui qui prêche la saine doctrine sans chercher à plaire aux hommes, mais en cherchant avant tout à plaire à Dieu et à son Fils, Jésus-Christ. Amen. Car c'est un jour devant eux que nous aurons des comptes à rendre, chacun d'entre nous. Nous devons nous tenir un jour devant le Seigneur. Puissions-nous avoir cette bonne attitude devant Dieu de prêcher la saine doctrine sans chercher à plaire à ceux qui ont toujours la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables. Nous devons prêcher fidèlement, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Nous devons prêcher la saine doctrine. Et c'est cela qui est agréable devant Dieu. Et si nous sommes dans cette attitude agréable devant Dieu, notre vie portera des fruits. Notre vie portera de nombreux fruits. Dieu sera glorifié dans nos vies et par nos vies. Puissions-nous être des hommes et des femmes qui vivent devant Dieu, qui ont une attitude agréable devant Dieu, qui parlent devant Dieu, qui prêchent devant Dieu, qui témoignent devant Dieu. Quel que soit l'endroit où ils sont devant Dieu. Ils ont toujours conscience de la présence de Dieu devant eux. Et lorsque nous sommes conscients de la présence de Dieu devant nous, tout change. Nous n'aurons plus peur de personne. La présence de Dieu remplira toute notre vie. Et nous serons transformés. Et nous serons des témoins qui le glorifieront. Que Dieu nous donne d'avoir ces attitudes-là agréables devant Dieu. Et sa bénédiction sera certainement sur chacun d'entre nous. Amen.